On va avec vous, Nathalie, pour m'en parler de cette exposition Gestes d'éternité, c'est jusqu'au 8 novembre. Comment avez-vous eu l'idée de mettre en place cette exposition qui évoque les rites mortuaires, qui va forcément un sujet très joyeux mais plutôt tabou?
Alors en fait, tout simplement parce que dans le cadre du projet scientifique et culturel du Mosée, ce que nous avons vraiment à cœur de porter comme message, c'est en quoi les éléments de la culture matérielle de ces sociétés humaines anciennes de la préhistoire et du paléolithique viennent donner comme information sur justement l'organisation de ces sociétés, leur organisation sociale, leur rapport donc aux matières, leur rapport au territoire, aux espaces connus ou parcourus, en gros leur rapport au monde. Et en réalité, s'intéresser aux défunts et aux pratiques et aux gestes funéraires, c'est en trouver beaucoup d'informations sur ces sociétés humaines. C'est trouver beaucoup d'informations sur les vivants, en fait. Donc, ce n'est pas du tout une exposition macabre, hein, c'est vraiment une exposition qui va permettre d'aller à la rencontre de ces humains de la préhistoire. Petit sujet de vocabulaire, les préhistoriens rechignent à parler de rite. Un rite, c'est quelque chose qui est très codifié, normalisé, souvent écrit, en tout cas transcrit. Et donc, c'est pas le cas. Et en tous les cas, on n'en a pas de traces concrètes. Et pour parler de rite, il faut avoir des gestes répétés, toujours au même endroit, enfin bon bref, et être sûr que c'était vraiment codifié, très codifié dans la société. Pour la préhistoire, on se retient de parler de rite. On préfère parler de gestes ou de pratiques. Et les pratiques, c'est des gestes pour lesquels déjà on va avoir une certaine récurrence à certaines périodes ou dans certains endroits. Voilà pour ce premier petit point de vocabulaire. Et donc sur l'apparence de ces premiers gestes, enfin sur leur arrivée, hormis le cas très particulier qu'on présente dans l'exposition de Cima de los Huesos autour de 430 ans de Milan, où on va avoir des dépôts de corps de pré-néandertaliens dans un gouffre en Espagne, près de Burgos, à Atapuerca. On considère que les préoccupations pour les défunts et l'arrivée de ces premières sépultures vraiment attestées et qui ensuite vont se poursuivre, c'est autour d'il y a à peu près 100 000 ans au Proche et Moyen-Orient. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gestes-là sont à la fois le fait des Néandertaliens qui occupent ces territoires et le fait des premiers hommes anatomiquement modernes qui occupent aussi ces mêmes territoires. Ce qui veut dire que ces préoccupations, elles sont indépendantes de la nature, on va dire, de l'espèce humaine, et qu'elles révèlent une certaine modernité de l'humanité, une certaine évolution des capacités cognitives et de rapport à ce monde symbolique.
C'est donc pour quelle raison, à un moment donné, l'être humain a fait le choix d'enterrer ces morts?
Alors déjà, vous dites enterrer, et en fait, il n'y a pas que l'enterrement. La sépulture primaire en pleine terre d'un individu entier, si j'ose dire, après son décès, c'est un geste parmi de très très nombreuses pratiques funéraires. Il y a des dépôts secondaires, les défunts peuvent être déposés, enterrés, donc à un moment, à un endroit, et être ensuite redéposés, retransférés entiers ou pas d'ailleurs, hein. Ça peut être des éléments du squelette seulement en d'autres endroits, ce sont des sépultures secondaires. Il peut y avoir d'autres gestes mortuaires que l'enterrement. Il peut y avoir la transformation des ossements, il peut y avoir la manipulation des corps, il peut y avoir la transformation de ces corps. Et donc, pourquoi tout ça j'aurais évidemment du mal à vous répondre. Il n'en reste pas moins qu'on considère, comme je l'ai un petit peu dit précédemment, que ça participe d'un même ensemble de faits que l'archéologie permet d'identifier, qui arrive un peu en même temps, grosso modo, hein, que d'autres préoccupations comme la naissance et le développement des expressions graphiques, le soin apporté à la réalisation de certains beaux objets en matière en pierre ou en matière animale, le goût pour les matières colorantes. Bon, voilà, tout ça se passe un petit peu au même moment. Et faute de mieux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les préhistoriens parlent de passé symbolique. Et ça, on considère que ça témoigne d'une certaine modernité de l'humanité à un moment donné.
Alors, il n'y avait pas de rite, vous venez de le dire, mais il y avait quand même des symboliques autour du mort, de la mort. On le voit ici dans cette exposition où souvent on dépose des objets, des bijoux auprès des défunts.
Oui, alors c'est vrai que dans les gestes funéraires ou dans les pratiques funéraires que j'évoquais il y a un instant, il y a aussi cette question des mobiliers d'accompagnement et des parures qui, dans certains cas, vont venir donc accompagner le défunt dans la mort et dans son dépôt. Et on a de très beaux exemples dans l'exposition, à la fois dans notre parcours permanent avec cet enfant de la Dame de la Madeleine ou la Dame de Saint-Germain-la-Rivière, mais également dans les prix exceptionnels qui ont été consentis notamment par le Muséum d'histoire naturelle, avec le prêt de la Dame du Cavillon, du crâne original de la Dame du Cavillon, ce qui est vraiment, on est extrêmement honorés d'avoir ce prêt. Et le public pourra découvrir cette dame avec donc, les nombreux coquillages qui venaient certainement orner une coiffe et qui restaient donc conservés sur son crâne.
C'est l'original.
C'est l'original. Dans cette exposition, tous les prêts sont des originaux, hormis les éléments de Cima de los Huesos que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et c'est le cas, c'est important, je pense, que le Musée national de préhistoire, dans le cadre de ses partenariats qu'il peut nouer avec des grandes institutions nationales, le MNHN, le Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, et puis d'autres institutions de musées territoriaux, puisqu'on a aussi beaucoup d'emprunts auprès de différents musées qui dépendent de collectivités territoriales, prêts étrangers aussi, pour l'ensemble des petits jumeaux de Krems, de la sépulture des petits jumeaux de Krems, qui n'étaient jusqu'alors jamais sortis d'Autriche. Et donc, oui, ces originaux-là témoignent, pour revenir à votre question, des parures, effectivement, du fait que certains individus vont être accompagnés dans la mort de tous ces éléments-là, ce qui permet de questionner le statut de ces individus. Beaucoup de collègues, beaucoup plus pointu sur le sujet que moi, ont énormément étudié ça, savoir si c'était des signes de richesse, de pouvoir, d'hiérarchie sociale. Aujourd'hui, à partir de l'analyse de ces sépultures, on ne peut pas conclure que c'était des positions hiérarchiques ou des signes de richesse. On va trouver ces ensembles de parures déposés aussi bien près de bébés, d'enfants, que de femmes, que d'hommes. Et en tous les cas, on ne sait pas ce que ça dit exactement, mais ça dit quelque chose du statut social de cet individu. Mais statut social, ça ne veut pas dire grand chef ou très riche. C'est autre chose, possiblement, puisqu'on a affaire à des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui avaient, encore une fois, un autre rapport à ces différents, ces différents signifiants que sont la richesse, les parures, que ce qu'on peut avoir.
Pour cette exposition, comment le visiteur la découvre-t-il? Y a-t-il un parcours?
Alors, en fait, pour cette exposition, qui est un peu comme les précédentes, vient se déployer dans la totalité du musée, à la fois dans notre parcours permanent et dans la salle d'exposition temporaire. Nous avons choisi évidemment de connecter les deux espaces. Pourquoi dans le parcours permanent? Parce que dans ce parcours-là, nous avons la chance d'avoir d'importantes sépultures, d'importants témoignages anthropologiques de ces gestes et pratiques funéraires qu'on a remis en lumière, remis en valeur à cette occasion de l'exposition. Et les prêts sont principalement, hormis le prêt Cro-Magnon, toujours du MNHN, qui est dans le parcours permanent, mais les prêts sont dans la salle d'exposition temporaire. Pour guider le visiteur, évidemment, on a créé une ambiance scénographique. Voilà, le violet vient embarquer le visiteur dans le voyage. Et on a aussi choisi de faire appel à un artiste, Pierre Mortel, qui est dessinateur et qui est venu aussi nous aider à travailler la question de l'entrée du public dans cette thématique par une démarche et des dessins humoristiques, poétiques, un petit peu décalés, toujours extrêmement respectueux du sujet et qui permettent, je pense, de comprendre mieux les intentions de l'exposition et surtout de comprendre mieux les messages que ces vestiges anthropologiques et leur mobilier d'accompagnement, le cas échéant, viennent nous livrer.
Et s'adresser ainsi à tous les publics.
Oui, d'ailleurs, concernant tous les publics, comme pour toutes nos expositions et globalement toute notre programmation culturelle, on a à cœur, évidemment, d'y associer des projets pédagogiques. C'est le travail du service en charge de ces missions-là, en lien avec les conférencières de Grand Palais à Ramène, de créer des offres spécifiques à destination de ces publics. Et tout ça, a lieu aussi à l'occasion de journées familles particulières, comme celle qui a lieu le 5 avril.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Et j'ai oublié de dire que c'était coproduit par Grand Palais à Ramène. C'est la boulette quand même.
Il y a des partenaires, justement.
Oui, c'est ça. Je voulais qu'on parle des partenaires.
Oui,
vous allez couper là.
Oui,
c'est la boulette. Donc évidemment, dans cette exposition, on ne construit jamais une exposition seule. Ça, c'est sûr. Et le cas présent, l'exposition est en coproduction, bien sûr, avec Grand Palais à Ramène, qui est un grand établissement public du ministère de la Culture. Et dans ces relations-là, ils ont vraiment énormément travaillé sur la question des prêts, ce qui explique aussi qu'on a de très beaux prêts. Et d'autres partenaires sont venus nous aider dans cette exposition, notamment donc l'INRAP pour la présentation de la sépulture de Casse-Neuil, qui est une fouille très récente de l'INRAP, qui raconte une histoire extraordinaire. Et j'invite tous les visiteurs à venir la découvrir. Et ensuite, la DRAC, Nouvelle-Aquitaine, puisque nous parlons aussi de la grotte de Cussac, qui appartient à la DRAC, et on a eu un cofinancement pour une visite virtuelle de la grotte de Cussac. Et puis également le grand projet de recherche Human Past de l'Université de Bordeaux, qui nous a aidé à cofinancer le fac-similé de Casse-Neuil. Et évidemment, n'oublions pas la Société des Amis du Musée National de Préhistoire, qui est venue nous soutenir dans la réalisation du petit espace Apprendre et se détendre, où on offre un point repos, et à la fois repos et didactique, avec mise à disposition de livres pour les publics jeunes, justement, pour répondre aussi à votre question de quel accueil de tous les publics.